principe doit être admis par celui qui désire approfondir ses connaissances sur cet ouvrage unique qu'est la Bible. C'est le fait que certaines choses dépassent la compréhension et même l'intelligence de l'homme. La profondeur de certains faits ou idées exprimées dans la Bible est tellement grande qu'elle représente parfois un défi, voire un véritable mystère pour quelques-uns des plus grands esprits de notre temps. Par contre, la Bible répond absolument à toutes les questions concernant les besoins essentiels de l'humanité, et cela dans des termes qu'une intelligence même moyenne peut parfaitement saisir. Le livre inspiré renferme en effet ce simple pain de vie, aisément assimilable par l'immense majorité des gens. On peut donc dire que la vérité révélée dans la Bible par le Saint-Esprit se situe à trois profondeurs distinctes. La révélation de Dieu présente certaines choses auxquelles l'homme ne peut accéder car elles sont trop profondes pour lui. On peut dire en d'autres termes qu'il semble évident que l'esprit humain ne peut pénétrer au fond de certains sujets en se trouvant placé de ce côté-ci de l'éternité. Il y a très longtemps, le Créateur déclarait par la bouche de Moïse, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les pourquoi et les comment de quelques-unes des actions de Dieu ne seront jamais résolues, même par les plus grands intellectuels. Car il existe de multiples questions auxquelles l'homme ne peut tout simplement pas trouver d'explication. Les choses cachées, secrètes, appartiennent à l'Éternel seul, et nous devrions avoir assez de sagesse ou même de bon sens pour ne pas nous épuiser à vouloir à toute fin comprendre ce que Dieu n'a pas destiné à notre intelligence limitée. Ensuite, il existe dans la Bible une profondeur pour laquelle l'homme éprouve certaines difficultés d'accès ou de pénétration. Il s'agit de ce à quoi il est fait allusion dans l'épître adressée aux Hébreux lorsqu'il est dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne fait par conséquent aucun doute que dans la Bible, certaines choses sont classées comme nourriture solide destinée aux personnes spirituellement adultes, tandis que d'autres, par contre, ne peuvent être saisies que par des bébés dans la foi. Ces idées ne sont donc pas nécessairement impossibles à comprendre, mais peuvent présenter certaines difficultés pour les non-avertis. Parlons maintenant de la troisième catégorie, c'est-à-dire de tout ce qui constitue les enseignements bibliques destinés à mener une personne, quelle qu'elle soit, au salut éternel en Jésus-Christ. Disons avant tout qu'il s'agit des vérités évidentes et aisément vérifiables plutôt que des vérités absolument impénétrables ou difficiles à pénétrer dont nous venons de nous entretenir. En d'autres termes, les parties fondamentales de ce qui doit être compris et cru et auxquelles on doit obéir afin d'obtenir le salut. Le pardon des péchés dépend directement de notre compréhension des enseignements de Jésus, de ses faits, de ses commandements ainsi que de ses promesses. Avant tout, il convient d'obéir de cœur à l'Évangile. Ce qui revient à dire en comprenant ce que l'on fait dans un contexte d'absolue sincérité. L'apôtre Paul dit en effet que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il faut donc que celui qui aspire au salut comprenne ce que Dieu promet à celui qui obéit vraiment à son évangile d'après le Nouveau Testament. La vraie foi, la repentance et le baptême en Christ mènent le pécheur à la rémission de tous ses péchés, le don du Saint-Esprit, ainsi d'ailleurs qu'à la vie éternelle. Cet ultime salut dépend non seulement de la rémission initiale de nos péchés, mais également de la connaissance de ce que représente la conduite de notre vie de chrétien. La fidélité et la sanctification de notre être tout entier jusqu'à la mort sont deux choses dont la croissance n'est nullement spontanée. Elles découlent de l'étude concertée de la parole de Dieu qui produit en nous une croissance et une solidification de la foi. L'apôtre Pierre exhorte tous les chrétiens en disant « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Il est donc essentiel de bien comprendre la Bible à cause des grandes bénédictions qui en découlent, mais également pour ne pas tomber dans le piège tendu sous nos pieds par une mauvaise interprétation du texte. Nous nous trouvons dans une position similaire à celle d'un pharmacien ne comprenant pas la prescription d'un médecin et remettant au malade un médicament contre-indiqué pouvant même occasionner la mort. Cet exemple ne touche que le domaine physique. Mais que dire alors si une telle tragédie s'appliquait à une âme immortelle? Le Seigneur Jésus nous avertit en ces termes. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Par ailleurs, Pierre, quant à lui, parle de certaines écritures dans lesquelles il y avait des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, dit-il, comme celles des autres écritures. Leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, dit toujours l'apôtre Pierre, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le voyons, les mots savoir et comprendre revêtent en ce qui concerne la volonté de Dieu une signification particulièrement importante et très lourde de conséquences. L'obéissance est chose impossible sans une connaissance, même succincte, de la vérité. Romains chapitre 10 et verset 17 dit en effet que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons par ailleurs que le salut est inaccessible sans la foi et l'obéissance à l'Évangile. Et nous pouvons même réaliser l'étendue du désastre spirituel que peut représenter une mauvaise compréhension de l'exacte volonté de Dieu. Le message des enseignements de Jésus est à la disposition de l'humanité depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Et nous avons même un énorme avantage sur les chrétiens primitifs, c'est que nous l'avons sous forme d'un unique livre imprimé, tandis qu'eux n'en possédaient que des fragments écrits à la main sur des rouleaux. Nous possédons comme eux la même nature humaine et la même intelligence innée. Dès lors, pourquoi ne pouvons-nous plus comprendre le message de Dieu à l'humanité au même titre qu'eux? L'Ancien ainsi que le Nouveau Testament sont restés durant des millénaires à la portée des êtres humains. Et brusquement, on voudrait nous faire admettre qu'il n'en est plus rien? Quelle absurdité! On entend souvent dire que deux personnes ne peuvent être d'accord sur chaque point en ce qui concerne la Bible. C'est apparemment vrai, et je dirais même presque naturel. Lorsqu'on considère qu'il existe des domaines dans lesquels Dieu n'a donné ni ordre, ni exemple, ni même de point de comparaison permettant de tirer une conclusion quelconque. Toutefois, dans le cas où il est explicite, Dieu s'attend à ce que nous comprenions, et soyons en accord. Dans la merveilleuse prière relatée en Jean 17, notre Sauveur prie afin que ceux qui croient en lui soient. De même, l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de l'église de Corinthe, les incite à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi eux, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il peut être vrai que certains ne comprennent pas certaines choses qui ont trait à la foi, de la même manière. Toutefois, il ne s'agit nullement d'une impossibilité auquel nous ajoutons crédit. Le Christ priait-il donc pour quelque chose d'irréalisable? Le Saint-Esprit, lorsqu'il inspirait l'apôtre Paul, ordonnait-il une mesure impossible à appliquer? Absolument pas. Du jardin d'Éden à nos jours, Dieu a toujours dicté sa volonté d'une manière absolument intelligible et applicable. Adam et Ève étaient parfaitement conscients d'avoir péché contre leur Dieu. Et il ne s'agissait nullement d'un soi-disant manque de connaissance ou d'interprétation correcte. Bien que Dieu lui ait donné un ordre vraiment peu commun, Noé n'éprouva aucune difficulté ni à comprendre, ni à obéir à l'injonction d'avoir construit une arche. Abraham prétexta-t-il n'avoir pas bien compris lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier Isaac? Se méprit-il sur le terme de la condition de sa miraculeuse guérison? Et s'est-il trempé 6 ou 8 fois dans le Jourdain au lieu de 7? Nous vivons de nos jours à une époque bien meilleure et plus facile. Et nous pouvons nous dire que la volonté de Dieu est tout aussi claire à suivre aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. S'il n'en était rien, on serait alors en droit de se demander pourquoi l'Éternel promet de punir si durement ceux qui enseignent de fausses doctrines. Paul dit en effet, « Si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'Évangile un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. » Ce passage de la Bible est qu'on ne peut explicite. Il montre bien que l'apôtre Paul, même sous prétexte d'unité, de paix ou autre noble motif, n'aurait accepté de recevoir, d'approuver ou même de cautionner des hommes enseignant de fausses doctrines. Quelle différence entre les concepts des apôtres et ceux de certains hommes actuels dits religieux? Oui, sachez-le. Dieu a toujours communiqué sa volonté aux hommes de manière à ce qu'elle soit compréhensible et claire. Le Nouveau Testament est là pour nous le prouver d'une manière tangible, et seule la volonté de Dieu conduit au salut. Oui, un choix s'impose. Lequel ferez-vous? Oui, vous. Je me propose de continuer cet entretien lors de la prochaine émission, au cours de laquelle nous verrons notamment qu'il est un point sur lequel il est assez aisé de s'entendre, l'autorité des Écritures.